dit à la grand-mère, qui l'a dit à son voisin. Le voisin à la bouchère à son gamin. Son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école, à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance? Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré.
Paraît-il que pour réduire la dette, donc il faut travailler 64 voire 67 ans pour Édouard Philippe. Pour réduire le déficit de la sécu, il faut revenir sur les 35 heures. Pour que les enfants profitent de leur temps libre, il faut accumuler les activités. Et bien sûr, pour éviter le vice, il faut éviter la paresse. Décidément, la paresse, pour une partie de la population, pour les dominants du moment et d'hier, pensons au stakhanovisme et au tableau d'honneur affiché dans les entreprises soviétiques, à mauvaise presse. Revendiquer la paresse serait-ce un slogan révolutionnaire anticapitaliste. Mais l'emprise de la morale du travail qui s'est diffusée partout nous permet-elle encore aujourd'hui de revendiquer un droit à la paresse comme le faisait donc Lafargue, gendre de Karl Marx, qui publia en 1880 un livre intitulé « Le droit à la paresse ».
Je dois tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance? Bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance? Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances. Elle ne ferait plus rien. Toutes les Clémences, comment en enfance? Elle serait bien. Toutes les Clémences prendraient des vacances.
Il y a un mois, nous découvrions avec Henri Jorda des origines de la paresse. Enfin, plus précisément, nous donnions un cadre, une définition au mot paresse, car si l'on peut résumer la paresse à pouvoir disposer de son temps, celle-ci existe depuis la nuit des temps. Alors pourquoi la paresse semble désigner un comportement à bannir, à éviter, un comportement de gens exclus ou à exclure? Vous pouvez retrouver en podcast sur le site de l'émission le début de nos échanges enregistrés le 8 juillet dernier avec Henri Jorda, donc maître de conférence en sciences économiques à Reims. Et tout de suite, on continue.
Désolé.
Mais alors du coup, cette idéologie du travail vient d'où?
L'Église. L'Église. Quand même, hein.
L'Église.
Le capitalisme. Et quand même, je dirais, le socialisme.
Oui.
Tu l'as dit dans ton introduction.
Oui.
Stakhanovisme, machin, etc. Ces systèmes économiques qui reposent sur un travail organisé que certains considèrent qu'il faut des personnels pour donner des ordres à des gens qui exécutent. Et là, que ce soit dans un système capitaliste ou communiste, ben voilà, il y aura... Et c'est pourquoi vous avez Casimir Malevitch, peintre soviétique, qui au début a été au proche du mouvement communiste, qui s'en est éloigné et qui va écrire un éloge de la paresse, Oui, Casimir Malich, vous voyez, c'est carré noir sur fond blanc, etc., etc. Lui, il fabrique des formes simples, des carrés, des triangles, parce que tout le monde peut se les approprier. Et très vite, il va découvrir, quand l'expérience communiste se déroule, il va écrire, que ce soit le capitalisme ou le communisme, il n'y a rien à faire, puisque de toute façon, ce sont toujours les mêmes qui travaillent, ouais. qui suent le burn-out, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, il y a toujours des chefs, et que le travail a été mis sur un tel piédestal, au même titre que l'ouvrier, qu'il est difficile d'envisager une société post-travail, alors que lui, il essaye de faire l'éloge de l'appareil, justement, encore une fois, comme geste créatif. Voilà.
Mais dans les actes, par exemple, où les personnes, je pense à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, où les gens cultivent la terre, travaillent pour gérer ce qu'ils ont acquis, et ils ne dépendent donc pas d'un patron. Et là, le travail, il est au service de la collectivité, soit pour gagner un peu d'argent, parce qu'il faut bien un peu d'argent pour acheter des choses, soit pour se nourrir eux-mêmes. Donc, ça rejoint un petit peu le mode de vie premier, quoi.
Ouais.
Et dans ce cas-là, c'est la paresse.
Quand ils
ne travaillent pas.
Là, vous parlez de gens qui sont déjà engagés.
Oui, bien sûr.
Donc, la paresse, là, elle n'a pas grand-chose à y faire. Enfin, la paresse, c'est vraiment se libérer de quelque chose dont on ne veut pas. De chaînes, de contraintes organisationnelles.
Oui, mais justement, il existe des micro-sociétés actuellement qui vivent autrement.
À ce moment-là, ça n'intéresse pas la paresse, parce que ces personnes-là sont engagées. Elles y vont.
Oui.
Donc, elles y vont d'elles-mêmes. C'est bien pour elles. Mais bon, la paresse, elle n'est pas sur ce terrain-là.
Non.
La paresse, elle est vraiment sur... Alors, peut-être que les personnes qui ont fait ça ont fait un chemin dans leur tête et à un moment donné se sont arrêtés, ont réfléchi ça a rendu possible cette fabrication-là sociale. Mais voilà, elle est peut-être en amont. Mais une fois que les personnes sont engagées dans une activité collective, la paresse, alors...
Le film de c'était 2001, où on arrêtait tout. On arrêtait de travailler.
Oui, de GB.
Oui, etc. GB,
oui. Ouais. C'était ça venait après.
Ça aurait pu.
Oui, ça venait après 68, etc., oui. etc. Ouais, c'était des moments un petit peu comme ça de.
On arrête tout.
On a essayé d'imaginer une autre société. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas duré.
Mais c'était un autre monde après le Covid.
Oui.
Le capitalisme est plus fort que tout ça.
Pour l'instant, oui.
Au-delà du capitalisme, on est quand même dans un système ou dans un monde où. On a besoin d'une on pense qu'on a besoin d'une organisation, que quelqu'un nous explique quoi faire ou autre. Et ça, c'est compliqué à trouver un système pour tout le monde, vu l'échelle que cela a pris également. Donc là, il y a tellement d'interdépendance entre nous que ça serait compliqué aujourd'hui de se dire comment je peux vivre sans me passer de quelqu'un qui... Qui m'aiderait ou qui me dirait quoi faire, c'est compliqué. Moi, je m'en sortirais pour une partie, mais il y a plein de trucs, ça serait compliqué. On est tellement dépendant des banques, par exemple. Aujourd'hui, tu ne peux rien faire pratiquement sans utiliser ta carte. Et en plus, tu payes pour ça. Tu ne peux pratiquement rien faire sans ton smartphone et tu payes pour ça. Et donc, d'une certaine façon, tu es enchaîné à ce mode de vie-là.
On vit dans le système, c'est difficile. Quoi. Même si on est... Je me considère plutôt en marge, mais c'est sûr qu'il y a des choses...
Et donc, c'est compliqué.
On ne peut pas passer à côté.
C'est compliqué. Et donc, pour des personnes qui se sont déjà posé la question, ils l'imaginent, mais des personnes qui ne se sont jamais posé la question, c'est un gouffre de remettre ça en question. Et aujourd'hui, on s'arrête souvent à la réponse « oui, c'est compliqué ». Et donc, on ne va pas essayer. Il faut se poser pour savoir. Il faut être paresseux. Il faut s'arrêter pour sortir de ça.
Mais pas s'arrêter devant la télé, quoi.
Non.
Ou à éteindre.
Vous pouvez.
Devant un écran. Les jeunes, ce n'est pas devant la télé.
Le but, c'est de s'évader. Ouais.
C'est ça. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis la seule personne à me rendre compte, c'est que là, dans l'émission, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu nous parles, en fait, tu regardes vers le ciel. Donc, On voit que tu t'évades, tu réfléchis. Enfin, moi, ça me. Non, mais c'est ça, ça me fait rêver. Je me dis, voilà, on est vraiment, tu es vraiment dans le thème.
Ah, c'est un monde, c'est un monde en soi. Hein,
ah, ben.
Le monde
oui,
de la paresse. Hein.
Et moi, j'explique souvent aux personnes, parce que moi, je fais que ce que je veux. Et tout à l'heure, on parlait des bénévoles. En fait, je suis bénévole et je paye pour ça.
En plus.
Ouais. Et c'est jouissif, en fait. Et donc, voilà. Et donc, maintenant, je pourrais dire, je suis paresseux. Avec quoi enchaîne-t-on, Jean ?
Oui, alors...
Attends, Jean-Marie, ben, il y a quelque chose à dire aussi.
Oui, c'est pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Simon. Peut-il y avoir une action collective des paresseux ? Puisqu'elle semble être plutôt... plutôt dans une logique, une démarche individuelle.
Ça peut être. D'abord, il peut y avoir qu'un retour sur soi pour être plus présent avec les autres. En fait, c'est comme ça que j'envisage les choses. C'est comme ça que quand tu lis les auteurs, surtout contemporains du 21e siècle, c'est on a besoin de se retrouver déjà soi avec soi. Et c'est en alors par exemple, Thierry Paco, des gens comme ça sur la sieste, tu vois, il dit bah, la sieste, oui, on pourrait dire c'est quelque chose de très individualiste, machin, oui, t'es en toi. Mais une fois que tu es bien et que tu en as besoin, et après tu vas être mieux avec les autres. Et en fait, c'est en se connaissant mieux, en faisant ce retour sur soi, que tu vas être mieux avec les autres. Alors peut-être la paresse collectivement, je vois pas, elles peuvent produire des choses à terme parce que ça va infuser ici ou là dans des innovations. Comme tout à l'heure, vous avez évoqué avec des communautés qui se regroupent ensemble et qui vont travailler ensemble pour inventer un autre monde. Ça, c'est possible, mais la paresse collective, en ce moment, tu vas assister à des... Alors, pourquoi on parle de paresse, on est le 8 juillet ? Ben oui, c'est des périodes où on parle de paresse. C'est le seul moment, en juillet-août, c'est le seul moment où la société peut parler de paresse. Enfin, et on a des émissions. Où on a des journaux, des revues, des textes, des articles dans la presse où on a, sur la paresse, la glande, le machin. Parce qu'effectivement, on va tous se retrouver à la plage, machin, avec effectivement un collectif qui est en train de larver. Voilà. Mais cette larve, c'est de la consommation.
Mmh, oui, voilà. C'est ça.
Donc c'est là où la paresse, d'un point de vue collectif, c'est aujourd'hui très difficile à envisager.
Ce que le système veut surtout pas, c'est qu'on arrête de consommer même pendant qu'on est en vacances. Quoi.
C'est ça.
Donc,
Oui, enfin, faut pas exagérer, hein. Faut pas tomber malade en juillet et en août. Hein.
Vas-y, développe, parce que là, tu
nous expliques. Ouais,
développe, quand mon mari a décompensé en juillet, j'ai trouvé personne pour venir m'aider. Aucune aide ménagère, tout le monde était en vacances.
Ah, bah, oui,
les
bah, ça,
médecins, pareil.
C'est les congés payés.
Voilà. Et ça, c'est un gros drame quand même. Ben socialement, c'est pas
ben maintenant
c'est
pas le acceptable. Drame, il est toute l'année avec l'état des
oui,
hôpitaux.
Oui, ben maintenant, oui, ça devient de plus en plus difficile. Mais je te parle de ça, oui. C'était déjà en 2010.
Oui, mais justement, vu que là, quand on explique, c'est l'un des seuls moments où on peut parler de paresse. Hein, et en fait, c'est que d'une manière générale, on n'en parle pas. En fait, on n'en parle pas généralement. Donc, on n'a pas appris les personnes à s'organiser tous ensemble pour être paresseux,
ça, c'est sûr.
Plus comment dire, plus intelligemment. C'est pour ça qu'on te dit tu pars du samedi au samedi et que de telle à telle période. Et en fait, on a vraiment structuré le temps où tu peux être paresseux de telle manière. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'il y a des périodes, les seules périodes où soi-disant, on peut être paresseux, mais tout le monde, s'en va.
Bah oui, c'est ça.
Et voilà, c'est libre.
Après l'effort, le réconfort.
Ouais. Moi, du coup, j'ai deux, trois questions là, qui surgissent. En fait, je me demande, donc, par rapport à ces discussions-là, si la paresse, c'est quand même pas fondamentalement un processus individualiste, quoi. Enfin, qui...
Oui.
Ouais, un processus individualiste.
Oui,
et puis... effectivement, la paresse, on consomme ceci, cela, mais quand on va au cinéma, qu'on prend plaisir à aller au cinéma, on consomme, mais en même temps, ça peut faire...
La paresse, oui. Quand tu lis un roman que tu as acheté, c'est de la paresse aussi.
On consomme, mais c'est quand même de...
Oui.
C'est de la consommation culturelle, mais...
Oui, mais quand je mange une glace... au bord d'un port, je peux aussi m'évader...
C'est de la paresse, hein.
Oui,
je suis d'accord.
Donc, c'est pas anti-consommation absolue.
Ah non. Non.
Mais c'est justement que, de toute façon, le système nous incite à consommer tout le temps, quoi.
Bah, oui, la division du travail fait qu'on est un peu obligé de consommer tout le temps.
Oui.
Bah non, la glace, tu peux t'en
passer. Tu peux la fabriquer.
En fait, ce qu'on voulait... Ce qu'on voulait dire, c'est que...
Non, on est obligé de manger.
Quand t'es paresseux, tu choisis de consommer ou pas. Et si tu reprends, par exemple, Le Meilleur des Mondes, d'Huxley... en fait, à un moment donné, aux enfants, tu leur fais avoir peur de la nature. Hein. Parce que partir à la campagne, tu ne consommes pas.
Ah, oui.
Et donc, il faut en avoir peur de ça. Là, dans ton temps libre, tu es libre en fait, d'aller marcher en forêt. Là, tu ne consommes pas. Enfin, ça ne rapporte d'argent à personne. Après, si tu t'arrêtes pour regarder un film ou une classe, tu es libre de le faire. Mais on ne t'interdit pas de faire des choses gratuites. Non, mais c'est ça. Et quand on parlait de culturel, à un moment donné, si tu regardes un spectacle de rue, bah, il est gratuit. Mais si ce spectacle-là est mis à être filmé et après à être projeté, on peut concevoir que oui, culturellement, on a diffusé et ça coûte de l'argent. Après, si des personnes amassent beaucoup d'argent pour faire ça, c'est un autre problème. Mais voilà, c'est est-ce que la culture... a besoin de temps pour être diffusé. Est-ce que ça doit coûter aussi cher? Ça, c'est un autre,
ouais. autre débat.
Ça, de, c'est un autre débat.
Il y a plusieurs formes de travail, il y a plusieurs formes de paresse. Oui. Enfin, voilà. Tu vois.
Enfin, je veux dire, c'est pas au-delà de toutes les contradictions non plus.
Ah non, bah non, forcément.
Bien évidemment.
Ah oui.
J'ai une question, en fait, sur la socialisation de la paresse, enfin, sur l'inculcation de la... Non. Sur le dénigrement de la paresse, j'aurais voulu savoir si tu avais travaillé sur le rôle de l'école comme lieu où l'on dénigre absolument la paresse, bah, ce qu'il faudrait...
Pas spécialement, mais bon, j'ai lu Ivan Illich. Oui, bah, l'école revient dans les éloges de la paresse, c'est l'école missionnaire. C'est, ouais. Voilà. C'est pas, l'école est une institution qui apprend le travail, donc l'école, il faut la fuir, et la fuir dès la plus jeune enfance. Ah oui, oui. Et ça, c'est Raoul Vanegame, voilà, philosophe belge, éloge de la paresse affinée. Non, c'est pas possible. Hein. L'école, c'est fait pour emprisonner. C'est une institution qui broie l'imaginaire de l'enfant.
Qui broie l'imaginaire.
Ah oui, carrément, ouais. Ils y vont comme ça. C'est-à-dire que ça détruit. C'est quelque chose que détruit l'enfant, en fait, qui détruit notre enfance, en fait. Mm-hmm. Bon, c'est un peu radical, mais c'est un peu ça, ouais.
C'est un peu radical. Il y a un poème, alors là, ça y est, j'ai oublié le nom. Tiens, mais tu sais, l'enfant qui est en classe et qui rêve
oui.
de s'évader par la fenêtre, là, je ne sais plus, oui. Qui voit un oiseau...
C'est Prévert. Donc,
voilà,
c'est
chercher Prévert. Oui. C'est de l'imaginaire, ça, quand
c'est
même,
ça.
Tout en étant en classe. Puis je peux te dire, hein, moi, pour avoir été dans les classes, les gamins, avec les mains sous les tables, tout ce qu'ils peuvent faire...
Oui, mais
CP, hein.
oui.
Si mes souvenirs
mais
sont
le problème
bons,
est...
le poème de Prévert, c'est justement un élève qui essaye de fuir
oui,
ben le
bien
moment
sûr.
De la classe.
Oui, mais il y a des...
moi, c'était moi près du radiateur, au fond, et le regard vers la fenêtre.
Ben oui, il y a tous les gamins s'évadent à un moment dans des classes, de toute façon.
Justement.
Mais il y a quand même pour moi un autre... Tu parlais d'imaginaire, imaginaire-image. Il
oui.
faut que les gamins puissent se faire des images.
Oui.
Or, moi, j'ai bien peur qu'avec la société actuelle, les seules images qu'ils se fassent, c'est les images des écrans.
Ah oui, mais justement, c'est là où il faut faire tout un travail créatif avec l'enfant.
Oui,
bah oui. Il faut oui. lui faire... Oui, bah oui, oui.
Oui, mais malheureusement, c'est prégnant dans la société
c'est
actuelle.
Prégnant,
mais... C'est dominant, puisqu'il y a même des bébés qui sont mis devant les télés.
Bah oui, mais les gens, ils ont quoi. Les parents, ils oublient qu'un enfant, il faut s'en occuper, quoi. C'est pas une plante, tu l'arroses et elle pousse, quoi. Je veux dire.
Oui, non, mais je suis bien d'accord avec toi.
Bah oui.
Mais je veux dire le problème de l'imaginaire de ces gens-là.
Bah,
s'évader dans l'imaginaire.
Bah, on a tous un imaginaire. On a tous. Donc le rêve, on l'a. On est capable de rêver. Tous et toutes. Le tout, c'est de nous donner cette possibilité de le faire. Et de manière presque éveillée. C'est ça et en fait, l'utopie cocagne. Les gens de l'époque n'étaient pas dupes. Ils savaient bien que c'était une forme de rêve. Mais c'est ce rêve qui a permis de rendre possible le fait que, bah oui, on rêve de moins travailler. Aujourd'hui, donnez-moi un rêve, quelque chose qui nous fasse imaginer que demain, ça ira mieux. Moi, je vois que des cauchemars autour de moi. Je n'entends parler que de cauchemars. Les œuvres de littérature, de l'esprit, sont plutôt des dystopies, plutôt que des utopies. C'est plutôt le monde de demain, ça va être la crise climatique, il n'y aura plus d'eau, ce sera une dictature, et blablabla, voilà. On va tous bosser, oui. Il y aura des robots, des intelligences artificielles, et machin. Oui. On sera tous, enfin, on imagine un monde technicien et froid comme pas possible. Et je vois, alors que retrouver justement le goût du rêve et de l'imaginaire et de rêver, ne serait-ce que d'un collectif qui fait vraiment autre chose que ce que veulent entendre l'État, les employeurs, la famille, l'école, là, ça devient plus intéressant.
Mais surtout dans ton exemple, quand tu parles de société robotisée, tout automatisée, tu devras toujours travailler.
Oui.
C'est que le travail disparaît comme peau de chagrin, mais on te dit que tu dois toujours travailler. Mmh. Et pour en revenir aux sociétés primaires, ça me rappelle la hache de pierre à la hache de fer. Hein, je ne sais pas si tu te rappelles. Mmh. Et c'était ça, qu'à un moment donné, quand une société travaille avec une hache de pierre, et quand on leur a proposé une hache de fer et qu'ils pouvaient réaliser le même travail en trois fois moins de temps, et ben savoir s'ils allaient travailler trois fois moins ou en faire trois fois plus. Et là, on est à peu près dans le même paradigme. C'est que, ben, en théorie, je pense que si on travaille une ou deux heures par jour, chacun et chacune, ça suffirait amplement. Mais non, on s'obstine à nous dire qu'il faut travailler jusqu'à 80 ans en faisant 40 heures par semaine, parce que sinon on est des fainéants, parce qu'on n'est pas paresseux, on est fainéants. Et pour beaucoup de monde maintenant, là, je ne suis même pas sûr que la paresse existe encore, on va dire qu'on est fainéants d'une manière générale.
Parce qu'eux, ils ont choisi de travailler trois fois moins.
Ouais.
Et oui, donc ils accumulent.
Sur le trottoir, une putain de belle chaise toute noire, en fer, avec des lanières de plastique tendues. Une vraie chaise de barapute, une chaise à l'état brut, qui avait dû en voir et en recevoir des culs. Des gros lourdingues à fessiers mous, des petits malingres serrés du trou, ou des jolies voluptueux qui vous attirent le bout des yeux pour mieux leur passer les menottes. Savoir, à ce moment-là j'avais perdu le goût de m'asseoir et d'amarrer ma solitude, mon cafard et mes habitudes à celles des piliers d'abreuvoir. J'en ai eu marre de les voir s'écrouler sur eux-mêmes en se raccrochant à des histoires qui tiennent pas debout. Ces petites histoires qui vous entraînent au fil des heures, des jours, des semaines, de soirs pisseux en matin blême, direct au trou.
Donc tu voulais nous lire un texte.
Ah oh, bah c'était juste une petite phrase de Raoul Wenegame. C'est bien, c'est bien. Parce que à propos de l'école buissonnière, enfin. Alors Raoul Wenegame a écrit Éloge de la paresse affinée. Donc c'est un philosophe belge, un petit peu anard.
Situationniste.
Non, ouais, voilà, c'est ça. Et il a écrit aussi L'adresse au vivant. Son adresse au vivant. Alors ça, je vous le conseille. Alors juste, travaille d'abord, tu t'amuseras ensuite. Tel est le leitmotiv aux allures de comptine qui descend de la tête pour rythmer militairement la marche du corps. Telle est, dans son insistance anodine, la rengaine qui orchestre la retraite de l'intelligence naissante. Et assurément, c'est une autre intelligence qui occupera le terrain sous la conduite glacée du labeur. Une intelligence où le cœur compte le moins et se pétrifie le mieux.
Pas joli.
Joli, ça. Dès l'enfance, on nous inculque le goût du travail et...
Le goût ou pas, mais ou l'obligation.
L'obligation du travail.
Fais quelque chose, ne reste pas là, ne rien faire.
Travaille d'abord, tu t'amuseras ensuite.
Et donc, on fait comment pour se débarrasser de cette idéologie-là ?
Eh ben, on essaie de parler de la paresse. C'est vain. Hein.
Peut-être pas.
On parlait de Don Quichotte tout à l'heure. Là, il y a beaucoup de moulins. Là, énormément. C'est pas la tendance. On le voit bien. Certains envisagent qu'avec l'intelligence artificielle, la robotisation, on sera de moins en moins nombreux à travailler. Moi, j'y crois absolument pas. Je pense que depuis que le travail existe tel qu'il est organisé, depuis plus de 2 siècles, il y a toujours eu la robotisation, l'automatisation. On est quand même tous là à travailler. Les machines, ça tombe en panne. Il faut toujours des humains. Il n'y a rien à faire. Donc, on sera condamné à travailler. Alors, il faudrait vraiment, vraiment qu'il se passe quelque chose au niveau des imaginaires. Là, moi, je ne vois que ça. C'est reconstituer un besoin du. Enfin, moi, j'ai besoin d'utopie. Ouais. Je pense que les humains ont besoin de rêver, d'avoir un imaginaire positif, avoir des rêves. Parce que Norbert Elias s'est intéressé aux utopies dans les années 80 et il a constaté dans les années 80 que les utopies, ce qu'il appelle les utopies positives, c'est-à-dire les rêves. Était en train de s'écrouler. Dans le monde, il y avait, dans les civilisations qu'il observait, il y a de moins en moins de rêveries, et que depuis Orwell, depuis Huxley, depuis tous ces gens-là, les années 80 étaient à un moment où définitivement c'était des cauchemars. Donc c'est ce qu'il appelait des utopies négatives. Et donc il essayait à sa manière de restituer ce goût de l'utopie plutôt positif qui permet d'avancer vers le mieux. Et si les humains croient vraiment dans cette possibilité d'aller vers le mieux, de moins travailler, d'être plus heureux, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. Mais à part l'art, la création, les œuvres de l'esprit, voilà, je vois pas.
Et donc, est-ce que pour penser la paresse, est-ce qu'il faudrait pas la penser aussi avec... Un autre imaginaire, celui de la décroissance, enfin, il y a d'autres termes, enfin, une limitation de nos besoins, comme pour les sociétés premières, en fait.
C'est, la décroissance est en train... Alors, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un avatar de la paresse, c'est la lenteur. La paresse, c'est vrai, ça passe mal. Hein. Et la lenteur, ça passe mieux. C'est ralentir. Alors, vous avez toute une série de travaux, là, en ce moment. Timothée Parik, un économiste, qui est « Ralentir ou périr ». Donc, effectivement, la décroissance, oui. Alors, la décroissance, c'est-à-dire que, par exemple, Timothée Parik raconte assez bien qu'il ne faut pas décroître partout. Il faut ralentir dans certains endroits et peut-être accélérer ailleurs. Il y a des choses comme ça. Et la lenteur, effectivement, devient quelque chose... c'est né dans les années 80 en Italie, hein, avec le mouvement slow food. Puis après, slow city, slow ceci, il y a même slow sex, etc., etc. C'est-à-dire, on prend le temps. Et donc, le symbole, c'est un escargot. Donc, effectivement, la lenteur... Moi, je me souviens d'un collègue qui m'avait demandé, mais c'est un collègue gestionnaire, excusez-le. Et donc, personne n'est parfait. Alors, effectivement, ce sont des gestionnaires. Alors, les gestionnaires, la question qu'ils me posent, c'est comment est-ce que tu la rends opérationnelle, ta paresse ? Je lui dis, justement, la paresse, c'est inopérationnel. ça ne peut pas opérer. C'est fait... Mais je me suis rendu compte après que la question finale... tu peux l'opérationnaliser, certains l'opérationnalisent à travers la lenteur.
Oui, il faut l'accrocher à quelque chose.
Voilà, il faut la raccrocher. Et la lenteur, effectivement, ça permet de ralentir. Donc, le slow food, c'est on facilite les circuits courts. En ville, on arrête la bagnole, etc., etc. Donc c'est une façon de traduire la paresse d'une manière plus acceptable socialement et voire presque marketing. Hein, parce que les mouvements slow, c'est pas anticapitaliste, hein, que je sache. Mm-hmm. Par contre, dans la décroissance, là, tu peux avoir un discours plus anticapitaliste et, mm-hmm. plus, et qui s'appuie sur Armut Rosa ou des gens comme ça qui sont vraiment dans la décélération. C'est l'accélération qui nous aliène. Donc, il faut absolument ralentir. Alors qu'en France, c'est plutôt l'urgence. Des auteurs chez nous qui disent c'est pas tellement l'accélération qui pose problème, mais plutôt l'urgence. Mais on voit bien que dans ce qui circule là dans les idées, on voit bien qu'il y a un problème là quand même. On atteint quand même une limite dans nos rythmes de vie. Pas simplement de travail, rythme de travail, mais rythme de vie en société, rythme avec les autres, avec la famille, avec etc., etc. On n'a plus le temps de faire ce qu'on veut faire. Ouais, c'est donc, c'est pour ça qu'Adon Droisa, beaucoup parlent de ralentissement, essayer de reprendre la maîtrise. C'est toujours, ça revient à ça, c'est reprendre la maîtrise de son emploi du temps, qui a été détruite par les employeurs, essentiellement. Quand on voit le taylorisme, le fordisme, etc., ce sont bien des dispositifs d'organisation du travail qui sont faits pour retirer la maîtrise de l'emploi du temps aux personnes qui travaillent et imposer un temps prescrit.
Et à ce propos, justement, vous pourrez trouver sur le site d'Attaque un très bon article justement qui expliquait comment l'informatique avait ramené une certaine forme de taylorisme dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est assez effrayant quand on se rend compte de ça, parce qu'on pourrait penser que l'informatique a solutionné pas mal de problèmes. En fait, non, on a remis des vieux problèmes qu'on avait avant dans la vie de tous les jours, et ce qui prend encore du temps, ce qui nous vole encore plus de temps. Ouais.
Et ça a même taylorisé les universités. Donc on travaille, c'est une plateformisation du travail à laquelle nous sommes tous rejoints.
C'est une plateformisation.
Travail en plateforme.
Oui, en fait, on a fait ça pour tous les échanges.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que si vous avez un problème, que vous allez à la poste, à la sécu, que vous avez un problème de colis, vous allez voir quelqu'un, tout de suite, il doit passer par une plateforme parce que cette personne-là n'a plus affaire directement à votre problème. Et donc, en fait, on a simplifié l'échange d'informations, mais la communication en tant que telle, elle est complexifiée, en fait. Et on perd un temps... on nous vole du temps, c'est considérable. Donc, comment... Ah, si ce Taylor était là, je le...
c'était inscrit dans son programme, hein. Il avait dit tout de suite, il faut chasser la pensée de l'atelier.
Ça,
il faut chasser la pensée de l'atelier, et l'ouvrier ne soit surtout pas à réfléchir. Il y en a qui sont là pour réfléchir.
Et pour chasser la flânerie, justement.
C'était la flânerie. Eh oui, c'est le début de la direction des ateliers, c'est la flânerie. Les ouvriers sont accusés d'être flâneurs.
Flâneur, et on parlait tous et toutes d'imaginaire. Quand on voit dans une BD et qu'on regarde un dessin animé, on se rappelle à l'école, de notre camarade qui regarde la fenêtre à rêver, en fait, on dit toujours que c'est un paresseux qui ne fera rien de sa vie, on le voit fumer avec un bonnet d'âne, alors que, en fait, c'est lui ou elle qui a tout compris, en fait, à la vie, de réussir à s'évader dans n'importe quelle condition, en fait.
Et ce qui permet aux ouvriers de flâner, parce qu'on les voit mal se rouler les pouces devant les supérieurs hiérarchiques. Hein. Ce qui leur permet de flâner, c'est leur savoir. Mmh. Et donc, il faut les en déposséder et ensuite décortiquer, prescrire.
Ouais. Et là, je vais aussi parler des fumeurs, parce qu'en fait, on critique beaucoup le fumeur, mais le fumeur, la fumeuse, sont les seules personnes qui prenaient le temps de faire une pause, parce qu'ils sortaient. Même si là,
Je suis d'accord.
J'aurais pas insisté.
J'explique pour les. En fait, j'explique pour les personnes qui n'ont jamais fumé. En fait, le fumeur, la fumeuse prend le temps de s'arrêter. Mmh. Elle va dehors, elle se pose. Hormis le côté social que ça apporte, mais en fait, on prend vraiment le temps de s'aérer. Alors, je suis désolé, on s'aère avec une cigarette. Mais moi, je suis un ancien fumeur et je considère encore que je suis un fumeur. J'aime bien dire aux personnes, tiens, on va fumer, parce que voilà, on prend le temps d'être paresseux d'une certaine façon.
Donc, et aussi, j'ai remarqué, ancienne fumeuse, que les groupes de fumeurs sont bien plus intéressants, bien plus rigolos que les groupes de non-fumeurs dans une même catégorie sociale de personnes.
Je suis encore tout à fait d'accord.
ouais, non, dire... c'est à propos des fumeurs et des fumeuses. Les organisations le savent bien, tout ça. Ouais. Il m'arrive de parler à des directeurs de structures dans le social, etc. On sait bien que les fumeurs, c'est vachement bien parce qu'ils vont fumer. Effectivement, ils se font une petite pause. Mais pendant ce temps-là, les informations, elles circulent. Le travail se fait, en fait.
Socialement, oui.
Et elles sont à ce point... Là, la paresse, elle peut être pervertie parce que certaines... Vous le savez bien, des coins siestes dans les boîtes. Ça se fait de plus en plus. Ouais. On laisse aux personnes... Parce qu'on sait bien qu'un cerveau qui est tout le temps tendu, il est plus aussi opérant. Et donc, oui, la pause méridienne, un petit quart d'heure dans un petit coin sympa, eh ben, allez-y, reposez-vous. Donc ça, c'est aussi, il faut faire attention, c'est de l'instrumentalisation par les employeurs de ces moments de répit.
Et je vais même plus loin, le télétravail.
Ah là, bah oui.
C'est que, en fait, le télétravail, au-delà de ramener le travail à la maison, et en fait, tu n'as plus de lieu pour te reposer.
C'est ça.
Et alors, autant ça peut avantager, moi ça m'a avantagé quand quand il n'y a pas neige, on ne peut pas circuler, de travailler aujourd'hui à la maison, pourquoi pas, mais tu t'aperçois que tu n'as plus de coupure parce qu'en fait tu ne sais pas vraiment comment, quand ta journée va commencer, quand est-ce qu'elle va se terminer, quand est-ce que tu peux t'aérer. Et donc, non, le travers du télétravail, c'est. Il en vient de là. Imagine ceux qui télétravaillent qui ne fument pas, les pauvres.
J'espère qu'ils boivent au moins du café ou de la tisane, parce que...
Oui, alors, actuellement, et pour évoquer un registre peut-être plus politique, ou du moins plus politicien, la paresse est-elle stigmatisée par les courants politiques institués en ce moment?
C'est le moins qu'on puisse dire.
En raison de... j'ai l'impression que la gauche aussi, maintenant, veut... s'efforcer de restaurer la valeur travail, au dire de certains.
Ouais, il faut définir ce qu'est la gauche, aujourd'hui.
Ouais.
Oui, enfin, la gauche, là, je pense au paysage politique actuel. Quoi.
D'accord. Bon.
Pas philosopher sur ce qu'est être de gauche, quoi. Bref, donc, assiste-t-on à une stigmatisation généralisée de la paresse, ou bien peut-on faire des nuances?
Je pense qu'elle est largement stigmatisée. Qui parle aujourd'hui de réduction du temps de travail? Personne.
Plus personne.
Ouais, ni la gauche, ni la droite, qui que ce soit. Non, la paresse est stigmatisée. La paresse, c'est l'assistanat. Conduit à l'assistanat. Et ça, les textes se remontent depuis le début du 19e siècle. C'est au moins très ancré. Et alors, c'est assez drôle parce que j'ai lu les philanthropes que vous connaissez peut-être, les Louis-René Villermet, tous ces gens-là. La paresse, c'est ce qui. C'est si je dois faire simple, l'ouvrier. Au début du 19e siècle, l'ouvrier paresseux, c'est un alcoolique. Donc il finit par sombrer dans l'alcool. Et il entraîne avec lui sa famille. Il est joueur aussi, il passe son temps à dépenser l'argent qu'il gagne. Donc il manque d'épargne. Et quant à la femme, celle qui ne veut pas travailler, que voulez-vous qu'elle fasse? La prostitution. Donc l'homme paresseux, c'est un alcoolique. La femme, c'est une pute. Voilà.
Tout va bien.
C'est
tout va pour le mieux dans le
tout
meilleur
le 19e siècle, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, c'est le retour. Donc à l'époque déjà, on parle de charité active. C'est-à-dire que si on fait la charité et de la philanthropie, il faut que l'autre montre quand même qu'il va vers le droit chemin. Et aujourd'hui, on retrouve ces moteurs-là, c'est-à-dire que c'est des politiques qu'on appelle en économie des politiques d'activation. Il faut montrer qu'on prend le bon chemin, et donc le travail social est là pour ça, pour encadrer les personnes à prendre le bon chemin. Et donc, sinon, c'est que vous êtes un assisté, que vous dépend et vous vivez aux dépens des autres. Un parasite. Donc le paresseux, par définition, est très, 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 très mal vu. La paresseuse également. Sont logés à la même enseigne. Et la paresseuse, oui, vous avez un très beau tableau, si vous tapez la paresseuse, c'est un tableau de la fin du 18e. Vous voyez, c'est une femme qui est dans son foyer. Et alors, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans son foyer, cette femme? Puisque la femme devait, elle devait rester au foyer. Ben, vous la voyez, elle est à moitié avachie. Et puis, tout autour d'elle, on voit bien que c'est pas rangé. qu'elle a bu, etc., etc. Voilà, la femme, mais qu'est-ce qu'elle fait dans son foyer ? Vous voyez, c'est tout de suite le soupçon. Et puisque la paresse, c'est un comportement effectivement individuel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas comme ça, enfin, qui ne se montre pas, eh bien oui, très vite, on va associer comme ça des non-visibilités. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez Mona Chollet, journaliste, elle est passée par le monde diplo, etc. Mm-hmm. Elle a écrit un bouquin où elle raconte « Moi, je suis journaliste, souvent, je travaille chez moi. » Eh bien, aux yeux des autres, les voisins, les machins, ils pensent que je ne fous rien.
Ah ben ouais.
Voilà. Alors, dès lors que vous avez un... Alors, même moi, hein, je suis souvent à la maison. Je me dis, mais que se disent les voisins ? Eh oui, nous, on a besoin... Enfin, je suis désolé, en tant qu'enseignant universitaire, vous avez besoin d'avoir des moments comme ça, de répit, de pause, de distance, de mise à distance même du monde, pour essayer de réfléchir un minimum. Eh bien, ça, c'est mal vu.
Même réfléchir.
Oui.
Quand tu passes, je suis aussi passé par ce monde-là, quand tu fais de la recherche, va expliquer à quelqu'un, quand tu te demandes qu'est-ce que tu as fait, que tu es resté 10 heures devant une page blanche avec des mots. Enfin,
exactement.
Voilà, et comment expliquer ça ? C'est compliqué, tu prends quelqu'un qui écrit un livre, quelqu'un qui va composer de la musique, quelqu'un qui va... Enfin, quelqu'un qui pratique de l'art, où tu n'as pas de réponse concrète, durable tout de suite, c'est compliqué. C'est compliqué de transmettre ça à quelqu'un qui attend juste une réponse. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qui attend juste une réponse bête, en fait. Tiens, j'ai passé 8 heures à vendre des fringues, j'ai servi de l'essence. Ah voilà, c'est compliqué.
Que dire des retraités, alors ?
Ah là ! Oui, mais les retraités, après l'effort, le réconfort.
Ah oui, c'est
ça. Les retraités, ils ont mérité d'être à la retraite. Ce n'est pas des paresseux.
Ah ben non, ils ne s'ennuient pas. Et en plus, tout ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils ont envie, en fait. Ils le font par plaisir.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout bas, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Rien faire, c'est la grande.
On devrait commencer par ça. C'est à 20 ans, tu es en retraite.
Ouais, voilà.
Et à 67 ans, si ils veulent, on se met à travailler pour un employeur. Et là, je pense qu'on aurait une société plus juste. Et en plus, niveau lenteur, on serait bien.
Ouais, ça me fait penser à la dernière loi de Trump, enfin, il me semble, où en fait, pour avoir une couverture médicale, tu devras travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit à une couverture médicale. Où, enfin, c'est une loi de ce type-là, parce que c'est difficile à...
Oh bah, la loi du 1er janvier 2025, hein, qui instaure pour les bénéficiaires du RSA une obligation d'occupation de 15 heures par semaine. Et les départements sont en train de s'arracher les cheveux pour savoir comment ils vont mettre ça en place. Quoi.
Bien sûr.
On va faire une, quoi, on prévoit de faire une émission sur le sujet, justement, parce que c'est une aberration complète.
Et là, il y a une dimension de travail gratuit. Enfin, je trouve que c'est qui pose des questions éthiques, de nature éthique, qui ne sont quand même pas...
Oui, et tout à l'heure, on en revient aux bénévoles, c'est que, enfin, nous, par exemple, je fais du bénévole, et maintenant, on nous oblige à participer financièrement à certaines activités.
En tant que bénévole ?
Ouais, exactement. Alors, moi, j'encadre des jeunes pour les scouts et guides de France. Et en fait, par exemple, en fait, c'est, on n'est pas rémunéré, mais par contre, maintenant, on nous demande, c'est une loi qui nous oblige à participer financièrement à la nourriture.
Incroyable.
Alors en fait, à un moment donné, c'est pas en soi, c'est peut-être pas déconnant, mais en fait, quand on voit certains tarifs, en fait, de plus en plus, on va dégoûter les personnes de faire du bénévolat, en fait.
Bah oui.
Bah oui. C'est, là, c'est clair que.
Et donc d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, en fait, il y a certains, on oblige les personnes au RSA à travailler, donc alors qu'au début, ils ne trouvent pas de travail, c'est qu'il n'y a pas de travail, ou alors créons un poste.
Oui, ils sont très éloignés du travail.
Ouais, non, mais oui, c'est ça. Mais waouh, si on voulait vraiment continuer encore à plus nous asservir et de tous côtés, ça serait...
Mais je pense que...
Et culpabiliser.
Ah bah bien sûr.
Et pour le RSA, en fait, je pense qu'il y a aussi une légende urbaine, quoi, urbaine ou une légende, qui veut que les gens qui sont RSA, c'est des flemmards et que s'ils se bougeaient un peu, ils pourraient trouver du travail. Quoi,
comme les chômeurs.
Voilà, comme les chômeurs. Et en fait, c'est une méconnaissance totale de la société. Quoi, parce
d'ailleurs, les économistes libéraux ont une façon de parler de la paresse, le chômage volontaire.
Ah ouais ?
C'est ça. C'est le chômage volontaire. Dès lors que l'ouvrier, le salarié n'accepte pas le prix à l'équilibre du marché, bah, c'est du chômage volontaire.
Mais il faut faire un travail de calcul.
Eh ?
Oui, mais ça, c'est pareil, parce qu'il y a des personnes qui sont non qualifiées et qui ne seront jamais, parce que pour diverses raisons. On enlève, je ne sais pas, il n'y a plus d'hôtesse de caisse, il y a plus de... Donc, c'est du travail en moins. Donc, c'est des chômeurs en plus, quoi. Et ces personnes-là, à une époque, quoi, je ne sais pas, il y a 70 ans, quelqu'un qui n'avait pas de facilité intellectuelle, on allait le mettre ouvrier agricole. Maintenant, ouvrier agricole, il faut qu'il ait un BTS chimie, sinon il ne s'en sort pas. Quoi. Il y a aussi des métiers qui ont disparu.
Là, maintenant, il finit livreur pour... voilà.
Ouais, voilà. Ouais. Ouais.
Pour Uber Eats et compagnie.
Donc, si le droit à la paresse est une revendication stigmatisée par surtout l'échiquier politique... elle devient entendable si elle se transmue en quelque sorte en droit à la lenteur, déjà évoqué
oui,
tout à l'heure.
C'est ça.
Ouais.
Ça passe mieux.
Ouais, ça passe mieux.
Ça passe beaucoup mieux. Ah ouais, c'est beaucoup plus entendu. La paresse est très 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 mal vue. Ce sera la conclusion de notre émission.
Ça peut l'être.
ça peut, hein, si on a fait le tour, moi ça ne me dérange pas.
Je veux bien continuer à me tourner les pouces.
On va laisser un blanc derrière. Oui, alors ce petit blanc, c'est on se tournait les pouces, et on faisait notre pause paresse.
Bah en tout cas, merci,
merci à vous.
Beaucoup.
Merci de votre accueil.
Ouais, merci à toi.
Si on peut juste terminer, en fait, on a cité beaucoup de livres et d'auteurs et peut-être d'autrices. Juste rappeler ces titres-là, si des personnes sont intéressées, parce qu'en fait, moi j'ai adoré le sujet, j'ai adoré comment on l'a présenté. Si les personnes veulent paresseusement approfondir le sujet, quel livre peuvent-elles lire ?
Bah, lisez déjà le... Alors, il faut être cohérent. Donc la paresse, il ne faut pas que ça demande trop de boulot. Donc prenez des livres très courts. Vous avez les éditions Alia, ont réédité un nombre impressionnant d'éloges de la paresse, hein, donc de celui de Malevich, évidemment celui de Lafargue, celui de Stevenson. Vous en avez bien, allez, entre 8 et 10 éloges, apologie des oisifs, Samuel Johnson, ils ont tous fait. Il y a Marivaux aussi, enfin, vous voyez, de 18e au début 19e, vous avez plusieurs éloges qui sont réédités. Sinon, bah, lisez le petit bouquin de Lydie Salvert, il est en poche désormais.
Qui s'appelle
tout. Alors, voilà. Ça y est, évidemment. Depuis toujours, nous avons aimé les dimanches. Voilà. Depuis toujours, nous avons aimé les dimanches. C'est très, très bien. Vous pouvez trouver l'éloge de la paresse affinée de Raoul Vanheghem très facilement sur Internet. Il suffit de taper Vanheghem, V-A-N-E-I-G-E-M, Raoul. Éloge de la paresse affinée. Vous trouverez même son adresse au vivant. Que je vous conseille, ça fait du bien. Et puis qui encore ? Puis bon, Lafargue, le droit à la paresse, évidemment. Et puis le travail, moi je trouve bon, ça va demander plus d'efforts, c'est plus long. Si vous avez survécu à ça, ben, ah moi j'ai trouvé que l'ouvrage de Laurent Vidal sur les hommes lents. Ça, c'est vraiment très, très bien. Si vous voulez faire l'histoire et en même temps de l'anthropo, de la socio, vraiment, c'est très, très riche, très, très stimulant. Voilà.
Okay.
Et puis sinon, si vous allez sur le site... Allez, je vais faire ma petite pub.
Ah bah oui.
Si vous allez sur le site de The Conversation, vous aurez deux textes de ma part, au moins, qui peuvent vous intéresser. Donc, « La sagesse de l'escargot ». Qui bien me baveuse. Semble particulièrement intéressante. C'est là où j'étudiais la lenteur, justement, en reprenant Ivan Illich, puisque la sagesse de l'escargot, ça vient d'Ivan Illich. Hein. C'est-à-dire que l'escargot, au bout d'un moment, il est beaucoup plus sage que l'humain, puisqu'il finit d'arrêter de s'enrouler dans sa coquille. Sinon, il s'effondrerait sur lui-même. C'est de là que vient la décroissance, l'idée de décroissance. Et puis, j'en avais édité un il y a un petit peu plus longtemps, c'est l'inversion de la courbe du temps de travail. C'était pour me moquer de Hollande. Qui voulait inverser la courbe du chômage. Et là, c'était l'inversion de la courbe du temps de travail, puisqu'effectivement, déjà de son temps, on recommençait à vouloir travailler davantage. Voilà. Alors que jusqu'alors, la courbe du temps de travail baissait. Et bien, à partir de Hollande, ça a recommencé à augmenter. Voilà. Donc, vous pouvez lire ces petites choses-là. Voilà, ça ne vous prendra pas trop de temps.
Et comment tu survis à la contradiction donc, de travailler sur la paresse ?
C'est très compliqué. Alors, je me suis rendu compte d'abord que ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Parce que c'est très... Oui, alors je me suis plongé dans l'histoire des péchés capitaux, etc. etc. C'est quand même assez ardu. La contradiction, voilà. Alors, j'essaye de m'échapper. Je publie moins hein, sur ces questions. Je me suis déplacé vers la lenteur. Parce que, très franchement, dans le monde académique, je suis économiste.
Ouais.
Tout est dit. Ouais. Un économiste qui s'intéresse à la paresse, c'est foutu pour lui. Donc, ma carrière est déjà derrière moi, je le sais. Mais alors, du coup, j'ai quand même essayé pour essayer de plaire un peu au monde académique. Bon, la lenteur, j'ai l'impression que ça passe beaucoup mieux.
D'accord.
On sait bien.
Et comme quoi, au final, la paresse ne va pas contre le travail.
Ah non,
voilà.
Non. Non.
Voilà.
Elle va contre le travail tel qu'il est organisé. Voilà, de c'est manière
le travail
essentiellement salarié d'ailleurs.
Capitaliste.
Voilà, le travail de nature plutôt capitaliste.
Travail aliéné.
Voilà, on va dire ça comme ça.
Et aliénant.
Et aliénant.
Et aliénant.
Super.
Tout à fait.
des Ailes Festival, c'est des rencontres littéraires sous le signe du partage. De la convivialité et de l'ouverture, voici la promesse faite par Interbibli pour cette 8e édition de ce festival itinérant en Grand Est. Du 12 au 22 novembre 2025, partez à la rencontre, près de chez vous, de 14 auteurs originaires des quatre continents. Par leurs récits, ils suscitent en chacun des rêves, des questions, des désirs et des émotions, et surtout l'envie d'en apprendre plus sur l'autre et l'ailleurs. Cette année, l'accent sera mis sur la convivialité, avec de nombreux temps d'échange avec les auteurs, 46 rencontres littéraires proposées en bibliothèque, une soirée d'ouverture le 12 novembre à Châlons-en-Champagne, avec un spectacle circassien, et une soirée de clôture à Metz qui vous proposera un spectacle sensible et poétique. Radio Primitive est partenaire de cette 8e édition. Pour tout savoir sur le programme et les rencontres, rendez-vous sur interbibli.fr. Au fil des ailes, c'est un festival engagé, convivial et de proximité. Alors rendez-vous dès le 12 novembre